Bonsoir, merci d'être venu à cette conférence de clôture de l'année 2016-2017 de la chaire Gilles Deleuze de la Fondation Université. Un bref mot qui sera suivi de quelques brèves paroles aussi, je n'en doute pas, des différents acteurs intervenants, partenaires de la chaire Gilles Deleuze et de la Fondation Bordeaux Université. Simplement pour dire qu'on est effectivement à la librairie Mola très heureux et très fiers d'accueillir cette conférence, que nous avons la chance d'être partenaire de la chaire depuis son lancement et pour cette année d'accueillir donc cette conférence de clôture avec Éloi Laurent et Patrick Boucheron animée par Thierry Aublet. Donc je vais passer la parole à Frédéric Cauchois, directeur général de la Fondation Bordeaux Université, qui va vous dire un petit mot autour de la Fondation. Merci.
Merci beaucoup, bonsoir. Merci à chacun d'entre vous d'être venu encourager et voir et participer en fait à ces échanges. La Fondation Bordeaux Université a quatre missions assez simples. La première mission, c'est de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche. La seconde mission, en fait, une mission qui est d'agir pour la professionnalisation des formations et favoriser en fait l'insertion de l'ensemble des diplômés de nos campus. Et la troisième est d'augmenter l'attractivité universitaire et le rayonnement de notre territoire au niveau international. Et enfin, nous sommes là également pour valoriser et diffuser les savoirs. Ce soir, vous allez avoir d'ailleurs un de ces moments-là. La Fondation, en fait, elle a été créée en 2009. Et si vous voulez plus d'informations sur la Fondation, en fait, vous trouverez des documents derrière. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de parler de la Fondation ce soir. De cette chaire qui, Gilles Deleuze, a été créée et soutenue grâce à EDF, à Sistra et à Bordeaux Métropole. Et qui chacun vont dire un petit mot derrière moi. Je vous souhaiter une excellente soirée. Et je suis sûr que ces débats seront riches et qu'ils vous permettront de vous éclairer une nouvelle fois. Monsieur Rotrou, je vous laisse prendre la parole. Merci à vous.
Merci, Monsieur Cauchois. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour représenter Bordeaux Métropole et son président Alain Juppé. Notre établissement est ravi d'être présent pour cette discussion de clôture pour l'année 2016-2017 de la chaire Deleuze, qui fait aussi le pont avec le travail de la chaire en 2015 et 2016. C'est en effet une discussion inédite, je pense, entre Patrick Boucheron et Éloi Laurent, que nous sommes invités ce soir. Cette année a encore été un véritable succès. Étudiants et chercheurs ont été au rendez-vous, mais au-delà du monde académique, la chaire a encore une fois rempli sa mission de rencontre et d'échange avec les publics, qu'il s'agisse des entreprises, des élus, des agents publics, des associations ou encore des habitants et curieux. Pourtant, le choix de l'histoire et d'un historien médiéviste pouvait paraître contre-intuitif pour une chaire placée sous le prisme d'enjeux du futur particulièrement. Et trois années d'existence pour prendre un recul historique pouvaient paraître court. Mais je crois qu'il faut reconnaître dans cet exercice de la chaire Deleuze l'engagement, la disponibilité et le désir de dialogue des titulaires. À ce titre, Patrick Boucheron n'a pas échappé à la règle. Le succès rencontré et le plaisir des participants aux différents temps organisés par la chaire doit beaucoup à cet engagement qui a été le vôtre. Vous avez magnifiquement succédé à Cynthia Fleury, à Mireille Delmas-Marty et assurément à Éloi Laurent, dont tous avaient reconnu la grande sincérité et l'authenticité l'an passé. Votre présence ce soir marque cet engagement. C'est donc un véritable plaisir de pouvoir écouter cette discussion. Elle marque aussi l'inscription dans le temps de la chaire Deleuze avec la sortie d'un premier ouvrage de reprise des réflexions des titulaires. Le premier spécimen est celui d'Éloi Laurent, auquel succéderont les ouvrages des autres titulaires. Ces opus sont édités par le Bordelot, éditeur local, dont de plus en plus de monde entend parler au niveau national. Le choix du nom de la collection est audacieux, Police Academy, mais il marque après tout ce lien entre culture savante et mainstream qui n'est pas complètement éloigné du projet de la chaire Deleuze. Ce pont entre les publics était bien présent lorsque le C2D nous a encouragés à vous rejoindre. Je veux saluer d'ailleurs son président Denis Mola qui a poursuivi l'engagement du C2D au sein de la chaire. Cela me donne l'occasion de remercier tous ceux qui œuvrent pour faire vivre cette chaire, Le comité scientifique, qui regroupe les différentes universités de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne, ainsi que Sciences Po et le Forum Urbain. Je crois savoir que le choix du nom de la collection a donné lieu à des discussions nourries au sein du comité scientifique. Je souhaite également remercier, et j'aurais dû commencer par là, les équipes de la Fondation de Bordeaux Université qui portent la chaire, ainsi que les autres mécènes. Un mot enfin pour remercier Denis Mola, le libraire cette fois, de son accueil et de cette station Ozone qui incarne elle aussi les ponts entre le savoir et le public. Je vous souhaite donc, messieurs, d'excellentes discussions et à toutes et à tous une excellente soirée. Et je vais laisser la parole à Monsieur Gauthier. Je vous remercie.
Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous dire quelques mots sur Sistra, qui est, si vous ne le savez pas, l'ingénierie qui a fait le tramway de Bordeaux. Mais on est aussi une entreprise tout à fait internationale, puisque pour 6000 personnes, il y en a plus des deux tiers qui travaillent hors de France sur un tas de projets internationaux. On a travaillé sur SEA, mais on travaille aussi sur des lignes nouvelles et des métros partout dans le monde, des métros automatiques. Et au-delà de ça, ce qui nous intéresse vraiment dans la chaire qu'on soutient depuis le début, c'est de trouver un espace de réflexion, un espace aussi où tout le monde prend plaisir à sortir un petit peu des problèmes du quotidien et se tourner, même si c'est avec des historiens, sur des problèmes aussi qui sont les problèmes de l'avenir. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on prend toujours un plaisir renouvelé à travailler avec la chaire et qu'on est particulièrement heureux de voir que ce soir, on réunit en plus les deux professeurs invités des deux dernières sessions. Voilà.
Alors, je ne sais pas si Luc Abalette vient d'arriver. Il arrive de Limoges, il est en pleine forme, il vient de quitter son manteau. Bonjour Luc, et merci d'arriver spécialement pour nous.
Bonjour, donc Luc Labalette, EDF. C'est toujours délicat parce que je n'ai pas entendu le précédent propos. Et je vais vous parler de la chaire, de mon ressenti, et je me disais... ça ressemble à une histoire de quinquennat, cette histoire de chaire de Gilles Deleuze. À savoir, si ma mémoire est bonne, n'ayez pas d'inquiétude, on a commencé à en parler en 2012. Cynthia Fleury a ouvert le bal, entre guillemets, sur la justice environnementale en 2013. 2014, Martine Delmas-Marty. Ensuite, on est passé à l'économie avec Éloi Laurent. Et en 2017, on est, enfin 2016-2017, on est sur l'histoire avec Patrick Boucheron. 5 ans. Quand je mets mes lunettes EDF, je remonte aussi. 2012, c'était la fin. Alors, lunettes EDF, ça veut dire... il y a des sujets énergie, il y a des sujets climat, il y a des sujets de ce type. Et effectivement, 2012, c'était tout de même la fin de Kyoto. On peut peut-être s'en rappeler. Et puis sur la phase 2012-2015, la construction d'un nouvel accord qui s'est traduit par l'accord de Paris. Vu de la France également, 2015, toujours avec mes lunettes, c'est tout de même la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Pour nous, en tant qu'EDF, ça suscite un peu d'enthousiasme, même beaucoup d'enthousiasme, parce que, en général, l'électricité, on appuie sur un bouton, on rentre chez soi, ça marche, on ne se pose pas trop de questions. Ça veut dire, cette loi sur la transition, ça veut dire notre futur dans lequel on rentre. L'idée est qu'on va se poser quand même peut-être un peu plus de questions sur l'énergie, des questions sur le CO2. Des questions sur les économies d'énergie. Et ça tombe très bien parce que les 9000 salariés qui sont dans cette région Nouvelle-Aquitaine pour EDF travaillent sur ces sujets. Donc tout ça, ça va bien. Après, on peut se dire, on a beaucoup plus entendu depuis quelques temps parler de quel réacteur nucléaire on va se le dire, on ferme, ou comment. Peut-être un peu moins de comment on réduit les consommations des 30 millions de logements qui concerne la France. Tout ça pour dire qu'on est sur des sujets complexes qui amènent une approche que moi je qualifie de pluridisciplinaire. Et c'est ce qui nous donne tout l'intérêt pour cette chaire, c'est-à-dire quoi ? Des partenaires qui sont divers. Je pense que vous avez parlé donc de Systra, vous avez parlé de la métropole, et puis un acteur de l'énergie, qu'importe des horizons différents. Tout ceci, on va dire, managé par l'université. Des intervenants prestigieux dans leur domaine, qu'il s'agisse de l'économie, de la justice, de la philosophie politique, de la justice, du droit et de l'histoire. Ça, pour nous, et par rapport à un thème qui est la métropole, qui est la nature, qui est la démocratie, pour nous, la métropole, c'est un thème qui a du sens parce que derrière la métropole, c'est la ville. Et dans nos sociétés, après, on peut penser ce que l'on veut. La ville, on est plus de 50% à y vivre. Et dans quelques années, on va plutôt vers 70-80%. Et l'électricité, c'est tout de même l'énergie urbaine par excellence. Donc tout ceci, ça a du sens. Mais si on ne comprend pas la ville, et aujourd'hui, comme j'ai dit, elle est de plus en plus compliquée, cette ville, si on ne la comprend pas par rapport à des approches historiques, par rapport à des approches de toute autre nature, eh ben, notre approche, nous, énergétique, elle n'aura aucun sens. D'où l'idée de notre présence dans cette chaire, notre participation. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Et puis, merci pour nous apporter, j'ai cru comprendre, oui, beaucoup de confiance pour l'avenir. Merci.
Thierry, je vous laisse démarrer. Merci.
D'accord, merci. Et bonsoir à tous, et merci pour votre présence, et merci bien sûr à la librairie Mola pour son accueil. Pouvait-on rêver d'un endroit plus approprié pour lancer une collection de livres, Police Academy ? Alors, le titre de la collection mérite quelques explications. De Cynthia Fleury, à qui je demandais si elle ne voyait pas d'inconvénient à publier un ouvrage dans une collection avec un pareil titre, j'obtins la réponse suivante. J'imagine que cela est bien orthographié. Effectivement, c'est bien orthographié, peut-être avec un peu d'emphase, mais au moins pour nommer le projet de la chaire Gilles Deleuze au sein de la Fondation Bordeaux Université. Ce projet, c'est bien sûr d'ouvrir l'université, et en l'occurrence ici, dans sa partie sciences humaines et sociales, en mordant un petit peu sur les arts et lettres. Donc il s'agit d'ouvrir l'université sur la cité et réciproquement. Et cela dans un contexte sur lequel je voudrais dire quelques mots. Ce contexte est évoqué au verso d'un papier qui est diffusé éventuellement à l'entrée, qui est un texte qui va présenter la collection, qui n'est pas sur le premier ouvrage, mais qui sera effectivement sur le second. Dans ce texte, on fait mention à l'égard du mépris dans lequel seraient parfois traités les travaux en sciences humaines et sociales. Je vais dire quelques mots, car je dois reconnaître que certains collègues ont fait la moue, ont froncé les sourcils, tout simplement pour me dire qu'ils ne se sentaient pas méprisés. Mais levons tout malentendu, là n'est pas la question. Ce n'est pas en tant que personne que les universitaires seraient méprisés. De ce point de vue-là, il faut le reconnaître, la situation d'universitaire reste encore très enviable dans notre société. Nous avons droit à notre part d'honneur, de mondanité. On peut servir plus qu'à notre tour au buffet, en petits gâteaux, petits fours et verres de vin. Donc, il ne s'agit pas de disputer le monopole de la paranoïa aux jeunes des banlieues, qui ont parfois de bonnes raisons de l'être, ou aux militants politiques et aux hommes politiques, ni même, si vous voulez, de conserver pour nous la revendication des théories du complot. Non. Néanmoins, je crois que si on accepte de regarder la société en face, telle qu'elle est, il faut bien admettre que la société fait peu de cas des travaux en sciences humaines et sociales. Il m'arrive d'enseigner la sociologie des organisations et je préviens toujours mes étudiants qu'ils ne s'attendent pas à ce que l'université, dans sa manière de se réformer, suive les préceptes d'un Michel Crozier. Je crois que l'université, et tout particulièrement en sciences humaines et sociales, ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle enseigne. Et j'avais été heureux de lire, amusé de lire dans un ouvrage de Patrick Boucheron, « Faire profession d'historien », une déploration sur le fait que l'université singeait une entreprise plus fantasmée d'ailleurs que réelle et qu'une certaine manière de se vouer au culte de la performance produisait surtout des dispositifs qui clérosaient, je dirais, notre créativité. Et puis encore, pour argumenter, que dire d'un ancien Premier ministre qui récemment confondait ce qu'un débutant en sciences humaines et sociales apprend toujours ou tout de suite à distinguer, ce qui est du registre, je dirais, de la compréhension, ce qui est registre de l'explication et ce qui est du registre de la caution. Compréhension ne vaut pas caution. Alors, je crois que je parle des sciences humaines et sociales, mais j'ai aussi appris en écoutant Patrick Boucheron que ça vaut aussi pour les climatologues de pouvoir se sentir de fait, si ce n'est en personne, parfois quelque peu méprisé. Et pour finir, je dirais, il suffit de regarder le palmarès de vente des meilleurs livres, dans la catégorie, justement, essais et documentaires. Non-fiction, disent parfois les Anglais. Où il n'y a que de quoi, quand même, il faut bien le dire, être chagriné. Non pas parce que les universitaires seraient jaloux, comme le pense Michel Onfray, mais tout simplement dépité au regard de tous les excellents livres négligés qui existent et heureusement que l'on peut trouver dans les rayons de la librairie Mola. Alors, je dois le dire, il y a des exceptions qui confirment la règle. Ça a été le cas de l'ouvrage de Thomas Piketty. Et c'est en ce moment l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et j'ai envie de dire que le trait commun peut-être de ceux qui seront les quatre premiers auteurs de la collection Police Academy, c'est d'être des exceptions. Nous avons véritablement affaire, que ce soit avec Éloi Laurent, puis Mireille Delmas-Marty, Cynthia Fleury et Patrick Boucheron, à des intellectuels qui s'impliquent dans le débat public. Patrick Boucheron ne se sert pas du Moyen-Âge, effectivement, comme d'un refuge. Ce sont des intellectuels qui ont le courage d'affronter les médias et qui, en plus, ont le mérite d'y briller. Et cela, sans faire de concessions avec leurs pensées. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la collection Police Academy va s'inspire de cette exigence, d'une certaine manière, d'essayer de diffuser auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous avons retenu, parce qu'il faut faire avec son temps, la tactique de faire des petits livres à petit prix. Et pas à n'importe quel prix, avec du contenu. Et je voudrais remercier l'éditeur Le Bord de l'eau, qui s'associe avec nous dans cette aventure. À cette occasion, j'ai rencontré un éditeur qui parle de livres et pas de produits. Ça, j'avoue que c'était effectivement tout à fait plaisant. Alors, le premier livre, c'est le livre d'Éloi Laurent, À l'horizon d'ici. Je pense qu'il aura l'occasion de le présenter dans le débat, dans la discussion qui va suivre. Puis suivra très rapidement le livre de Delmas Marty, qui a l'avantage de présenter une analyse originale où à partir effectivement des défis que la crise écologique mondiale pose aux droits, essaye de trouver effectivement des pistes qui permettent de voir comment on pourra construire un droit pour l'humanité, pour le commun de l'humanité. Et puis viendront ensuite les ouvrages de Cynthia Fleury et de Patrick Boucheron. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les premiers livres de la collection vont donc être des traces de la réflexion qui a été engagée dans le cadre de la chaire Gilles Deleuze sur la question de la métropolisation avec ses enjeux écologiques et démocratiques. Et j'espère qu'à la lecture de ces livres, vous en retrouverez l'aura. Et l'aura, bon, moi qui ai assisté à de nombreuses, à presque l'intégralité du programme de ces quatre années, effectivement, de chaire, je dois dire que nos professeurs ont toujours été excellents, et au nom de nos étudiants, je les en remercie. Mais j'avoue que j'ai souvent un souvenir plus fort de ces manifestations qui ont été organisées en dehors du cadre de l'université. Souvent, il faut bien le reconnaître, à l'initiative de nos mécènes, EDF, Systra, Bordeaux Métropole, que je remercie effectivement ici, comme quoi rien ne remplace la confrontation avec l'autre. Alors, pour lancer la collection ce soir, une question presque bébête. Peut-on avoir confiance dans l'avenir? Voilà. Bon, on l'a choisi pourquoi? Parce que ça nous a semblé être une question opératoire, au sens de Karl Polanyi. Vous avez une question un petit peu à la Paul Venn. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Où on peut répondre, ben oui, non, ils y croient, ils n'y croient pas, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on entend par les Grecs, ça dépend de quel mythe on parle, et ça dépend de ce qu'on entend par croire, d'une certaine manière. Bien, vous voyez que cette question-là, peut-on avoir confiance dans l'avenir, c'est très ouvert. On s'attendrait à voir débarquer Madame Irma, ou un prospectiviste, ou un expert en économie, ou un philosophe, ou un poète. C'est une question ouverte à tous, comme on essaye effectivement de le faire dans le cadre de Police Academy. D'où le petit clin d'œil, effectivement, bien vu sur des films comiques dont un étudiant me rappelait hier qu'il ne volait pas très haut. Voilà. Mais on peut toujours espérer décoller. Il faut bien le voir. En plus, c'est une question qu'on pourrait tellement triturer que j'ai bien peur que dans un horizon proche, si nos obsessions identitaires reviennent, on puisse se poser la question, peut-on avoir confiance dans notre passé? Alors, pour te dire, et j'arrête là, on a opté pour ce soir sur la méthode Diabelli. Diabelli, c'était un éditeur de musique viennois. Il avait eu cette idée de composer un thème de valse d'une banalité extrême et de proposer à tous les compositeurs de son temps de composer justement une variation. Et l'ensemble des variations devait faire une œuvre au bénéfice des veuves et des orphelins, des soldats tués dans les guerres de résistance à Napoléon. Beethoven a d'abord fait la sourde oreille à cette proposition. Non pas qu'il était insensible au sort de la veuve et de l'orphelin, peut-être qu'il trouvait qu'il avait déjà à s'occuper de son neveu et que c'était beaucoup, plus sûrement sans doute parce que le rebutait l'idée de s'associer à une œuvre collective, lui qui a un génie si singulier. Et puis il s'est pris au jeu. Il a composé 33 variations qui ont donné les fameuses variations Diabelli, dernière œuvre pour piano de Beethoven, une de ses œuvres les plus magistrales et les plus audacieuses. Donc, messieurs, à vos claviers. Voilà. Et on va peut-être commencer d'abord par Éloi Laurent de nous faire une variation sur cette question. Ce sera sans doute, je pense, l'occasion pour lui de nous dire en quoi son ouvrage donne des éléments de réponse à cette question. Puis je donnerai la parole à Patrick Boucheron, puis nous passerons aux exercices de contrepoint.
Très bien, quelle introduction. Merci, merci beaucoup Thierry. Bonsoir, je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici aux côtés de Patrick Boucheron dans le cadre de cette chaire Gilles Deleuze. Pour le lancement de cette collection, donc je vais bien sûr sacrifier avec plaisir au rituel des remerciements qui sont effectivement très sincères, comme ça a été dit. D'abord, remercier les mécènes de la chaire Gilles Deleuze, dire à quel point moi j'ai été très heureux d'avoir l'honneur d'être choisi pour cette chaire. La chaire Gilles Deleuze, c'est vraiment un cadeau qui est fait aux titulaires qui ont la chance de pouvoir l'exercer, parce que c'est une fête intellectuelle. C'est une fête intellectuelle dans laquelle on rencontre des publics qui sont très divers, dans laquelle on se livre à des exercices qui sont tout à fait changeants d'un jour à l'autre. C'est à la fois un peu épuisant et en même temps, c'est très exaltant. Donc, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné cette chance qui a été pour moi une effervescence, en fait, à mesure que cette fête intellectuelle avançait, une effervescence et qui m'a donné l'idée de beaucoup de projets. Donc, voilà, je voudrais en particulier remercier donc tous les mécènes, bien sûr, en particulier remercier Catel Bousquet qui a beaucoup fait pour que le moment qu'a été l'exercice de cette chaire soit un succès et un plaisir. Et puis, je voudrais bien sûr remercier Thierry Aublet pour m'avoir suivi dans la rédaction, la conception de cet ouvrage dont je vais vous dire un mot. Alors, le défi est double ce soir puisqu'il s'agit de parler d'un sujet que nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Peut-on avoir confiance en l'avenir? Et il faut raccorder ça au livre qui n'est pas un livre sur la confiance, mais qui est assurément un livre sur l'avenir. Alors, voilà ce que je vous propose. Il y a deux façons de prendre ce sujet. La première manière, c'est de dire, est-ce qu'on peut, dans l'absolu, avoir confiance en l'avenir ? Est-ce qu'il est possible d'avoir confiance dans l'avenir comme on peut avoir confiance dans une personne ou dans une institution ? Et la réponse, à mon avis, est non. Et parce que l'avenir n'est ni une personne ni une institution, et qu'on ne peut vraiment avoir confiance qu'en une personne ou des personnes ou une institution. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant ? Et donc, derrière cette question de la confiance dans l'avenir, il y a évidemment la question de la crainte et des menaces qui pèsent sur l'avenir. Et donc, c'est un sujet qui invite à s'interroger sur les menaces qui pèsent sur notre avenir aujourd'hui. Bon. Alors, pour traiter la première partie du sujet, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir dans l'absolu ? Il faut définir la confiance. L'avenir, ce n'est pas très compliqué, quoique. Mais la confiance, c'est certainement compliqué. Alors, la confiance, c'est un mot très intéressant qui est à la fois trompeur dans son étymologie et en même temps qui nous mène sur la voie de ce qu'il y a à comprendre de la confiance. Confiance, c'est cum fides. Cum fides, c'est croire ensemble. Cum, avec. Fides, la croyance, la foi. Donc la confiance, c'est croire avec quelqu'un. Et dans cette étymologie, il y a un piège. Et le piège, c'est fides. Parce qu'en fait, fides, ça n'est pas fiducia. Et la confiance, c'est fiducia. Fides, c'est la croyance ou la foi. Et pour ça, vous pouvez croire dans une abstraction et vous pouvez croire dans l'avenir. Mais en réalité, le vrai mot, c'est cum. Il faut être ensemble pour avoir confiance. Donc moi, je vous propose de définir la confiance comme une espérance de fiabilité dans les conduites humaines. Et si on la définit comme ça, on comprend immédiatement qu'il y a deux sortes de confiance, de vraie confiance. La confiance dans les personnes et la confiance dans les institutions. Qu'est-ce qu'avoir confiance dans une institution ? C'est avoir confiance dans le fait que le principe qui régit cette institution va être appliqué de manière conforme par les personnes qui en ont la charge. On peut avoir confiance dans la police. Si on a confiance dans la police, on aura confiance dans les policiers, mais on n'aura pas confiance dans la personne des policiers. On aura confiance dans le fait que les policiers vont respecter le contrat qui est passé entre la police et les citoyens, c'est-à-dire le fait, je reviens à Police Academy, mais c'est vraiment, alors là, je l'avais même pas prévu. Il faudra quand même revenir sur ce titre et sur Police Academy parce que c'est quand même un petit peu extraordinaire ce titre. Mais la police, c'est l'idée que vous attendez des policiers à ce qu'ils exécutent le contrat que la police a passé avec les citoyens, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles de la police. Et là, vous aurez confiance ou pas dans la police. Et on a vu en France récemment, on voit très souvent dans les démocraties, ce problème de la confiance dans la police qui dépend finalement des principes, qui sont les principes de la police. Donc, on ne peut pas à proprement parler avoir confiance dans l'avenir. On peut croire dans l'avenir, on peut être pessimiste ou optimiste, mais ça n'est pas à proprement parler de la confiance. C'est ça le premier point important, je pense, à comprendre. C'est d'autant plus important que, je ne sais pas si vous avez vu hier, que les économistes qui ne sont jamais en reste ont fait paraître un baromètre du bonheur des Français, où on nous explique que les Français sont malheureux, sont pessimistes et où absolument tous les concepts sont mélangés. C'est-à-dire le concept de bonheur est mélangé avec le concept de confiance, lui-même mélangé avec le concept d'optimisme ou de pessimisme. De telle sorte qu'on ne comprend absolument pas ce qui est mesuré, parce qu'il n'y a aucune précision conceptuelle. Donc l'optimisme ou le pessimisme, ça n'est pas la même chose que la confiance. Bon. Et pourtant, la question se pose qui est, mais alors, est-ce qu'on ne peut vraiment pas avoir confiance dans l'avenir ? Et la réponse que je vous propose, c'est on peut avoir confiance dans l'avenir si on a confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. Et la confiance dans l'avenir, c'est la confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. C'est ça la confiance dans l'avenir. Et donc la question est, parce que c'est quoi une institution ? Une institution, c'est ce qui permet de projeter dans le temps la coopération humaine. La vraie source de la prospérité sur la planète, ça n'est ni la croissance, ni le marché, ni la finance. Ce qui fait que l'espèce humaine est prospère, c'est la coopération sociale. Et la raison pour laquelle les institutions sont importantes, c'est parce que les institutions permettent de projeter dans le temps la coopération sociale. Donc quand on se pose la question du rapport à l'avenir, on se pose la question des institutions. Et ça m'amène au deuxième point, qui est, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant? Et est-ce qu'on dispose d'institutions qui peuvent nous donner confiance dans l'avenir parce qu'on a l'idée que ces institutions vont nous porter, vont projeter cette coopération sociale dans le temps? Et pour ça, pour répondre à cette deuxième partie de la question, il faut dire ce qui menace, à mon sens, notre avenir en ce début de 21e siècle. Et je crois que ce qui menace, ce sont deux crises que moi, j'essaye dans mes travaux d'articuler depuis un certain nombre de temps, Et ces deux crises sont, d'un côté, la crise des inégalités, qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie, sous nos yeux. Et la deuxième chose, ce sont les crises écologiques. Les deux crises qui menacent aujourd'hui notre prospérité, notre bien-être, c'est la crise des inégalités et les crises écologiques. Et la question est, est-ce qu'on peut imaginer des institutions qui permettent de lutter contre ces menaces aujourd'hui ? Commençons par la question de la crise des inégalités. Je disais, crise des inégalités sociales qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie. Le pays de cette crise, ce sont les États-Unis. Moi, j'y vais très souvent, j'y enseigne. Le pays qui est en train de réaliser le plus horriblement cette dégénérescence démocratique, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis sont un pays où la crise des inégalités sociales insupportables depuis 30 ans est en train de donner une crise de la démocratie extrêmement profonde. Et donc est en train d'arriver ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive aujourd'hui, et ça s'appelle Trump. Voilà exactement la menace que nous avons. C'est-à-dire le tyran qui arrive après l'échec de la démocratie à lutter contre les inégalités sociales et qui arrive à convaincre les citoyens qu'au fond, la démocratie est une machine à reproduire simplement les privilèges. Et donc, il dit, comme dans la Grèce antique, maintenant, on évacue le Parlement, on évacue la démocratie et il y a la tyrannie parce qu'au fond, la tyrannie, c'est l'aléatoire. Et l'aléatoire, c'est le contraire de la reproduction dynastique. Et Trump a un côté imprévisible et dans son imprévisibilité, dans son côté aléatoire, c'est-à-dire qu'il est aléatoire pour lui-même, il ne sait pas la minute d'après ce qu'il va dire en réalité, croyez pas une seule seconde qu'il a la moindre idée de ce qu'il fait, il n'en a pas la moindre idée, c'est de l'improvisation constante et c'est une incompétence totale, c'est une incompétence qui est modérée, c'est une malfaisance modérée par l'incompétence, Trump. Il est profondément malfaisant, il est profondément nuisible, mais sa limite fondamentale, c'est sa propre incompétence. Mais ce côté aléatoire, ce côté imprévisible, au fond, je crois que ça a un sens philosophique très profond. C'est l'idée que l'aléatoire peut restaurer une forme de justice. C'est l'idée qu'il y a quelque chose comme un tirage au sort quotidien aujourd'hui aux États-Unis, qu'aucune politique n'est écrite parce que la démocratie a donné l'idée aux Américains que c'était simplement une machine à reproduire les inégalités. Et de ce point de vue-là, Hillary Clinton était la candidate dynastique. Elle était la candidate qui proposait d'être finalement celle qui venait après son mari et de l'idée que la politique désormais, c'était la famille. Voilà. La démocratie désormais, c'était on se passe la couronne d'un membre de la famille à un autre. Et je crois que c'est ce contre quoi fondamentalement les Américains sont élevés en choisissant Trump, ce qui est une erreur tragique et historique et ils vont le payer très très cher. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé en termes de mécanisme. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter Trump ? Et qu'est-ce qui pourrait arrêter un Trump français ? D'abord, contrairement à ce qu'on pense, la démocratie a de beaux restes. Et il y a au moins 5 contre-pouvoirs qui se sont dressés depuis que Trump a pris le pouvoir et qui font leur travail aux États-Unis. Le premier, ça a été la rue. Ça a été une manifestation considérable sur le Capitole, beaucoup plus importante que les gens qui sont venus pour l'inauguration de Trump. Il y avait littéralement des millions de personnes aux États-Unis, alors que la foule qui s'est amassée au Capitole, enfin sur le mall de Washington pour voir Trump était une des plus petites qui a jamais été, de même que le taux de popularité de Trump était un des plus faibles de toute l'histoire des présidents des États-Unis. Pensez pas une seule seconde que cet homme est puissant aujourd'hui. Il est au contraire profondément affaibli. Et il affaiblit très très vite. Bon, donc le premier contre-pouvoir, ça a été la société civile, les gens qui ont manifesté. Ensuite, ça a été la justice. Les juges qui ont bloqué d'abord une première fois son décret anti-musulman et puis une deuxième fois son décret anti-musulman. Et ça, c'est un contre-pouvoir. Et puis, ça a été le pouvoir du Parlement. Le Parlement a bloqué sa réforme de la santé pour des raisons compliquées d'ailleurs et qui ne sont pas toutes forcément dignes d'éloge. Mais le Parlement a joué son rôle de contre-pouvoir. Et puis, il y a la bureaucratie, la technocratie, c'est-à-dire que vous avez des agences indépendantes comme le FBI qui est en train d'enquêter aujourd'hui sur les affaires de Trump et ses liens avec la Russie et qui, je vous le dis, peut faire exploser ce président dans les 2 mois qui viennent de façon très, très spectaculaire parce qu'il y a une enquête extrêmement sérieuse sur... Donc, il y a plein de contre-pouvoirs. Et puis, le dernier contre-pouvoir de Trump, c'est sa bêtise. Et ça, c'est peut-être le contre-pouvoir le plus puissant, une fois de plus. C'est la malfaisance tempérée par l'incompétence. Et l'incompétence fait... Si vous voulez, la différence entre Trump et Reagan, c'est que Reagan savait qu'il n'était pas très malin. Trump ne le sait pas. Et donc, c'est Trump, c'est Reagan sans les fiches. Reagan était connu pour arriver dans les sommets avec des centaines de fiches dans ses poches, qui étaient écrites par des conseillers, et des conseillers qui étaient assez compétents. Par exemple, Jim Baker était quelqu'un d'assez compétent. Trump ne croit pas, d'abord, il ne croit pas dans l'effort de lecture et d'écriture, donc on ne peut pas lui écrire des choses qui font plus de 25 lignes parce qu'il ne les lit pas. On dit qu'il ne sait pas lire. Ce n'est pas complètement exclu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la télévision. Il est convaincu que ce qui passe à la télévision est vrai. Il le croit vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Et il a, non seulement lui est incompétent, mais tout autour de lui, les gens sont incompétents. Bon, et donc ça, c'est vraiment la grande chance que nous avons, c'est qu'effectivement, il y a ce contre-pouvoir-là. Donc ça, c'est les premières institutions. Et vous voyez que quand on dit « la démocratie est morte, les populismes sont en train de prendre le pouvoir, on n'arrêtera pas la crise de la démocratie est en train de s'autodétruire », ce n'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. On voit une démocratie qui... est en train de résister. Donc ça, c'est les institutions qui, pour l'instant, font leur travail. On verra, ça va être long, ça va être pénible, mais il y a ces... Et la deuxième chose qui résiste, ce sont les territoires. Et ça, c'est très important de bien voir que les États-Unis, ça n'est pas que le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral, la présidence des États-Unis, c'est une petite partie de ce qui se passe aux États-Unis. Il se passe plein de choses aux États-Unis, et vous avez des villes, vous avez des régions, vous avez des localités, des métropoles qui aujourd'hui disent qu'elles n'ont aucune intention d'obéir aux principes qui guident cette administration et qu'elles vont porter autre chose. Et je voudrais, et donc j'en arrive à mon livre. Vous avez vu le... tour de passe-passe, ça y est, je suis à mon livre et à la question des territoires. La première partie du livre consiste à dire que les territoires, que nous vivons un moment territorial, que les territoires ont pris le pouvoir au XXe siècle, et quand je dis territoire, j'entends toutes les institutions qui sont en dessous du niveau national, les régions, les métropoles, les villes, etc. Et que le XXe siècle, c'est à la fois un double mouvement de prolifération des États-nations, vous avez 60 États-nations au début du XXe siècle, vous en avez quasiment 200 à la fin, et de subdivision, d'éclatement de l'État-nation, c'est-à-dire du fait qui d'ailleurs nous ramène à l'Europe du XVe siècle. Ce qui est très beau dans ce que nous vivons, et c'est là où on voit l'intérêt de l'histoire, c'est que on est dans une Europe, enfin, on est dans un monde des cités-États, des duchés. Enfin, on est en train de regarder ce qui se passe avec le Brexit, par exemple, et ce que va être le devenir de Londres. Bon, on voit très bien qu'on est dans un modèle de cités-États. Donc, les territoires, eh bien, ont pris le pouvoir. Et aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que la ville de New York, une des choses les plus significatives qui soit passée sur ce pouvoir territorial nouveau, c'est le fait, rendez-vous compte, que la ville de New York aujourd'hui donne des papiers d'identité, des cartes d'identité de New York aux immigrants qui n'ont pas de papiers. Parce que New York a décidé d'être ce qu'on appelle une ville sanctuaire. Et le sanctuaire consiste à accueillir des immigrants qui n'ont pas de papiers et de ne pas leur faire la chasse, de ne pas leur faire la guerre. Et à New York, vous pouvez, si vous voulez un appartement et que vous n'avez pas de papiers officiels, aux États-Unis, il y a très peu de passeports, mais en tout cas, pas de permis de conduire, etc., vous pouvez avoir la carte d'identité de la ville de New York. Ben, vous voyez ça, cette carte d'identité de la ville de New York, c'est peut-être le plus beau symbole de la prise de pouvoir des villes et des territoires au début du XXIe siècle. Et le fait que ces institutions-là vont continuer, quel que soit l'agenda de Trump, il va y avoir un conflit, et ça va être le sixième contre-pouvoir, ça va être les villes. Les villes vont s'opposer, et les régions et les territoires vont s'opposer à ce que Trump va faire. Et l'autre grande région qui s'oppose à ce que fait Trump en ce moment, c'est la Californie. Et la Californie dit, cette semaine, Trump a décidé de revenir au charbon, donc c'est-à-dire de remettre en danger la santé des Américains, etc., pour quelque chose qui n'a aucun enjeu économique, il n'y a plus d'emplois dans le charbon, il en reste 50 000 aux États-Unis, enfin, ça n'a plus aucun intérêt, sinon pour donner comme signal aux énergies fossiles que on va pouvoir se dispenser de contraintes climatiques. La Californie, sous le gouvernorat de Jerry Brown, qui est un vieux gouverneur, qui était déjà gouverneur il y a 40 ans, puis qui est revenu, etc., comme quoi en politique, on peut durer très longtemps. Un message d'espoir à donner à tous nos candidats. Donc Jerry Brown dit, eh bien, Trump peut faire ce qu'il veut. Moi, je représente une région de 40 millions d'habitants. Et nous, on va faire non seulement l'accord de Paris, mais on va faire encore mieux que l'accord de Paris. Et parce qu'on le fait... Peut-être que ça va durer 4-5 ans, cette histoire de Trump, on verra. Je vous dis, ça peut s'arrêter beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le pouvoir fédéral reviendra à la réalité et reprendra ses esprits, eh bien, nous aurons avancé et grâce à ça, le pouvoir fédéral pourra nous prendre comme modèle. Et c'est très exactement ce qui s'est passé quand Barack Obama est devenu président des États-Unis. Il y avait eu 10 ans de ténèbres au niveau du climat avec George W. Bush. Pendant ce temps-là, la Californie avait avancé. Et quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a pris les standards d'émission, enfin les standards de consommation des véhicules automobiles de la Californie. Donc être pionnier, ça veut dire qu'à un moment, on peut devenir le modèle. Et toutes ces expériences locales qui se passent aux États-Unis, ce sont autant de structures de rémanence de la démocratie qui réapparaîtront quand le pouvoir fédéral, quand on aura chassé le tyran. Donc ne pensez pas une seconde qu'il ne se passe rien. Et au contraire, les territoires, c'est un formidable espoir pour ça. C'est-à-dire que ce sont, et si demain, ce qu'à Dieu ne plaise, nous avons un Trump ou une Trump en France, dites-vous bien que la vie va continuer dans les villes et que la vie va continuer dans les régions et qu'on n'abolira pas les... Et ça, c'est un argument très important. Un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale. Patrick Boucheron lutte par l'idée de la globalité, de l'histoire globale, montrer que c'est global. On peut faire aussi une histoire locale et montrer qu'un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale, ce sont les identités territoriales. C'est ce qui se passe dans les territoires, parce que cette identité nationale qu'on nous vend, elle est totalement abstraite et désincarnée. En réalité, elle n'a que faire des terroirs et elle n'a que faire des territoires. Les véritables identités en France, il n'y en a pas une, il y en a plein. Et elles continueront d'exister, même si demain, on avait une extrême droite au pouvoir qui commençait à nous faire des grands discours sur ce que c'est qu'être français. On saurait quand même demain ce qu'est être bordelais, même si on nous expliquait ce qu'est être français. Donc vous voyez, les territoires, c'est une institution très puissante pour lutter contre cette idée de la dégénérescence de la démocratie sous l'effet de la crise des inégalités. Ensuite, c'est le deuxième point, j'ai commencé à en parler, les territoires, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, un formidable espoir pour la transition sociale-écologique. Alors, pourquoi sociale-écologique? Pourquoi la transition sociale-écologique? Parce que pour combiner la question écologique avec la réalité quotidienne, il faut comprendre que les questions écologiques sont des questions sociales, en réalité. Quand on parle, et ce sont des questions quotidiennes et ce sont des questions locales. Alors, vous avez sûrement vu le film formidable film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, Demain. D'accord? Qui l'a vu dans la salle? Eh bien, ce film aurait pu s'appeler « Ici ». Vous voyez ? C'est pour ça que moi, j'ai appelé ce livre « À l'horizon d'ici ». Parce que ce livre vous montre que l'avenir se construit dans le local. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le film, c'est des initiatives locales qui construisent l'avenir. Et donc, il y a une espèce d'articulation entre la question du temps et la question de l'espace qui fait que toutes ces initiatives, c'est ce que Elinor Ostrom appelait la transition polycentrique. La transition polycentrique, ça veut dire que toutes les initiatives émergent à différents niveaux et que c'est pas, on n'attend pas que les Nations Unies décident qu'il faut se soucier du changement climatique pour faire quelque chose dans les territoires en Gironde ou ailleurs. On fait les choses et généralement ensuite, on les extrapole. Et donc, ça ne marche pas du sommet vers le bas. Ce que montre Demain, c'est qu'en fait, la transition que moi j'appelle sociale-écologique, qu'on pourrait appeler écologique, elle est entamée déjà sur la question de l'alimentation, par exemple. Il y a une véritable révolution sur la question de l'alimentation qui se fait, sur les circuits courts, etc. Sur la question de l'énergie. On parlait de la loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique institue les territoires à énergie positive. C'est-à-dire le fait qu'il faut que les territoires se réapproprient leur énergie. Et que c'est ça, la transition énergétique. Ce qui se passe en Allemagne, la transition énergétique, le grand virage énergétique Energiewende, et le fait qu'elle ait tellement de succès, car quoi qu'on en dise en France, elle a énormément de succès, et oui, les émissions de CO2 baissent en Allemagne, elle se fait par les territoires. Donc, il y a une transition par les territoires, en fait, qui se passe. Voilà. Et donc, dans le livre, j'essaye de montrer que, pour ça, pour faire des territoires l'institution de cette par excellence de la transition sociale écologique, eh bien, il faut repenser un petit peu les ambitions des territoires. Et que l'ambition, ça ne peut pas être la croissance. L'ambition, ça ne peut pas être augmenter le revenu par habitant et faire des concurrences entre régions sur qui a le plus grand revenu par habitant. Moi, les horizons qui me semblent pertinents, c'est le bien-être, la résilience et la soutenabilité. Le bien-être, c'est reconnaître que ce qui fait la prospérité humaine, c'est pluriel. C'est pas que le revenu ou le PIB par habitant ou la croissance. C'est l'éducation, c'est la santé. Les inégalités sociales en France aujourd'hui, elles sont massivement d'éducation et de santé. Et ces inégalités d'éducation et de santé, elles sont territorialisées. Donc il y a une problématique de bien-être et même d'égalité des territoires dans la question du bien-être qui doit être posée. Et donc, le passé de la croissance au bien-être, je vous garantis, ça change tout. Et donc, on essaye de travailler avec des institutions nationales sur proposer des indicateurs de bien-être qui permettent justement... Pourquoi ? Parce que l'ambition, c'est changer ce qu'on mesure pour changer ce qu'on fait. C'est pas juste pour le plaisir de mesurer. C'est qu'on a l'ambition de faire en sorte... Si vous dites l'ambition fondamentale, c'est augmenter la croissance de 2% par an, vous mettrez en place les politiques publiques qui visent à augmenter la croissance de 2% par an. Ça veut dire que vous sacrifierez le reste. Par exemple, Trump veut une croissance de 4% par an. Ce qu'il veut, c'est supprimer l'assurance santé parce que ça va permettre d'augmenter la croissance économique. Si vous augmentez le profit des entreprises qui font des profits colossaux sur l'assurance santé aux États-Unis, vous augmenterez la croissance. Mais vous aurez diminué le bien-être. Vous aurez détruit même une partie importante du bien-être. Quand vous dites on va faire du gaz de schiste, etc., parce que ça va augmenter la croissance, vous détruisez les écosystèmes. Donc la question, c'est d'arriver à montrer que le bien-être, c'est pluriel, qu'il ne faut pas qu'une dimension, qui est la dimension économique, écrase toutes les autres, et de montrer que voilà, les choses qui comptent pour les humains, moi, pour moi, l'économie, c'est valoriser ce qui compte, vraiment. Et donc, ça veut dire sortir précisément de la croissance et sortir de ce mythe et de cette illusion qui est largement véhiculée par les économistes et qui aboutit à une destruction du bien-être. La résilience, c'est de dire, au fond, la résilience, c'est le fait de dire le bien-être doit supporter les chocs. C'est-à-dire qu'on sait que les chocs vont arriver. On sait malheureusement qu'on est en retard dans la lutte contre le changement climatique. Donc, on sait qu'on va avoir des canicules, on sait qu'on va avoir... On les a déjà et il y a des chocs très importants. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte de supporter ces chocs et de se préparer à faire en sorte que notre bien-être subisse des chocs? Par exemple, une crue centennale à Paris. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de préserver le bien-être des Parisiens si on a une crue du type de celle du début du XXe siècle? Ça, c'est la question de la résilience. Et enfin, la question de la soutenabilité consiste à dire tout simplement choc et pas choc, il faut essayer de faire en sorte qu'on vive de manière harmonieuse avec la biosphère, tout simplement parce que l'économie en dépend. Si vous voulez, l'économie, c'est simplement une petite partie de la biosphère. Donc, si la biosphère s'effondre, l'économie s'effondrera aussi. C'est ce que sont en train de comprendre les Chinois aujourd'hui. Vous faites 12% de croissance pendant 10 ans, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus rien à manger de correct, il n'y a plus d'air respirable, et donc votre économie s'effondre. Et les Chinois ont dit, OK, on passe de 12% à 6,5%. Si vous avez suivi ce débat passionnant, enfin, ce débat, c'est justement pas un débat, mais cet événement passionnant qui est le congrès annuel du Parti communiste chinois, qui vient de se terminer. Et vous avez vu que les Chinois ont confirmé le fait qu'ils décélèrent économiquement. Ils passent de 12 à 6,5 parce que, et ce n'est pas une crise, c'est une transition, parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de s'autodétruire. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire aussi, si les Chinois l'ont compris, je pense qu'on peut le comprendre aussi en France et dans les territoires français, qu'en effet, il faut arriver à une décélération économique pour préserver ce qui est essentiel. Donc, dans ces trois choses-là, bien-être, résilience et soutenabilité, les territoires ont un rôle absolument fondamental à jouer. Et si on arrive à construire des territoires qui sont tournés vers le bien-être, la résilience et la soutenabilité et qui deviennent des institutions de la transition sociale écologique, alors oui, on pourra effectivement avoir confiance dans l'avenir. Merci.
Bien, donc merci Éloi pour ce propos qui donne des raisons d'espérer. Alors, ce n'est pas une question, c'est vrai que je me pose quand même la question de la bêtise des dirigeants comme contre-pouvoir, et ça, j'aimerais que l'historien réponde, mais Patrick Boucheron a le droit de réagir comme il veut au thème de la soirée dont Éloi nous a dit qu'il entretenait plein de confusion.
Merci Thierry, bonjour à tous, bonsoir à tous. Et évidemment, j'ai très envie de partir billes en tête ou pieds au plancher, même si on ne croit plus à une société de vitesse et de consommation, vers toutes ces invitations à penser et à agir. J'aime beaucoup cette idée que, au fond, demain et ici sont deux mots interchangeables. C'est très exactement de cela dont on a à parler. Si à l'horizon d'ici, c'est justement l'horizon de l'avenir, et si un film qui s'appelle « Demain » peut s'appeler « Ici », alors pour l'historien que je suis ou que je tente d'être, car c'est jamais donné, car il faut travailler à le demeurer et à conserver cette exigence et cet effort patient. Cela désigne au fond ce que devrait être le temps. Tout le monde comprend d'évidence, tout le monde sait d'expérience que notre présent est riche de passés accumulés, mais nous savons aussi qu'il est criblé d'avenir et que ces éclats d'avenir font qu'on ne perd jamais son temps, au fond, à faire les sciences sociales, en tant que toutes les sciences sociales, économie, sociologie, anthropologie, histoire, sont des sciences historicisées, sont des sciences du temps, et le temps, effectivement, nous permet de saisir qu'il y a, pour comprendre notre avenir, qu'il ne nous suffit pas seulement d'imaginer des mondes meilleurs, mais d'être ici et là attentif à ce qui se fait déjà. Et c'est ça, cette idée qui est très simple, qui est très modeste, parce que si demain est dans l'ici, ça veut dire qu'au fond, les politiques les plus dangereuses sont celles qui sont les plus inattentives aux ressources d'énergie, d'intelligibilité, de curiosité, de ce qui se localement, effectivement, dans ce qu'on peut appeler les territoires, se passe sous nos yeux et que par morgue ou par inattention, nous ne voyons pas. Dire que une bonne partie des problèmes que nous avons à résoudre sont déjà quelque part résolus, c'est une manière effectivement de faire confiance au fond à l'énergie sociale, que il me semble une initiative comme la vôtre, la Fondation Bordeaux Université et la chaire Gilles Deleuze d'une certaine manière si brillamment relevé. Et c'est pour ça que je ne veux pas partir bille en tête, je ne veux pas me dérober aux remerciements sincères que je vous dois à la Fondation, aux mécènes, à l'organisation, à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner, dire d'un mot que ce fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante, émouvante, contre-intuitive parmi l'ensemble des mots qui ont été adressés avec bienveillance avant que nous ne commencions ce débat. J'aimerais relever celui de contre-intuitif. Oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif d'inviter un historien qui plus est d'une période ancienne à tenter de réfléchir à ces thème à la fois si brûlant et en même temps si technique des rapports entre métropole, nature et démocratie. Et le fait qu'on puisse prêter attention à ce que un médiéviste pense de tout cela n'est assurément pas bon signe sur notre capacité effectivement à construire notre avenir commun. Mais voilà, d'une certaine manière, je pense que être contre-intuitif, c'est aussi aller contre l'intuition, c'est aussi un effort et qui peut être au fond une bonne définition de ce que c'est que la pensée, aller à contre-pente de l'intuition. Alors, l'intuition sur l'organisation d'un tel débat consisterait à accepter le partage des rôles suivants, à l'économiste de nous dire ce qu'est la confiance, à l'historien de nous enseigner ce qu'est l'avenir. Puisque à partir du moment où j'ai défini effectivement le temps comme cette non seulement pas justement ce qu'on croit, hein, c'est-à-dire une succession où le passé s'épuiserait dans le présent et serait aveugle à l'avenir, mais une capacité au fond à chercher dans ce qu'il y a d'accumuler le présent une ouverture sur l'avenir. Eh bien, au fond, on rejoint là la question des lieux. Parce que c'est vrai que C'est tout à fait frappant de considérer que notre société, qui apparemment, par son gain technique, par la fin de la tyrannie de la distance, par l'instantanéité de la communication, par cet optimisme du désencastrement de l'économie qui, évidemment, produit une société idéalement liquide, comment se fait-il que cette société normalement, nous promettait des horizons ouverts, eh bien, produisent le système dans lequel nous vivons, plus ou moins bien, avec plus ou moins de bien-être, justement, dans une terre de moins en moins habitable, parce que la richesse y est de plus en plus localisée, de plus en plus violemment concentré en des points de la Terre, qui sont des points à la fois étroits et dangereux pour l'ensemble de l'écosystème. Cette hyper-localisation de la richesse, c'est aussi une concentration du temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à lire Éloi Laurent sur cette pensée des territoires qui me paraît incroyablement engageante pour l'avenir. Mais je le lisais aussi, ce livre vif et si cinglant, je le lisais en même temps qu'un livre, là pour le coup, très imposant et très gros, de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquer, qui s'appelle « L'enrichissement », et qui montre comment ces lieux, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, sont aussi des lieux où se dépose non seulement la valeur, mais aussi le passé. Et qu'aujourd'hui, c'est d'une certaine manière avec le passé que l'on fait de la valeur. Et qu'il y a là, bien plus que la question du patrimoine, une inégalité fondamentale de notre rapport, non seulement à l'espace, nous savons bien qu'il y a une fracture spéciale, mais une fracture spatiale, mais également au temps que nous devons déterminer. Oui, je disais, si on n'était pas contre-intuitif, eh bien, je devrais me contenter de parler de l'avenir et de laisser l'économiste définir, et il l'a très bien fait, la confiance. Quelques mots quand même sur ce mot, sur cette notion de confiance et sur le fait que je serais bien en accord avec vous pour ne pas lui trouver au fond un air aussi engageant qu'on pourrait le penser, précisément parce que son étymologie est trompeuse. Doit-on faire confiance aux institutions ? Oui, on doit le faire parce que sinon, évidemment, on est dans une grande difficulté. Ce que j'ai le plus apprécié dans ces moments passés avec vous, et je dirais volontiers ce qui a déjà été dit par Thierry, que, évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à des étudiants, à des doctorants, etc. Mais ce qui m'a le plus surpris et le plus enthousiasmé, et au fond, ce qui m'a le plus fait espérer, c'est effectivement sortir de ma zone de confort pour aller au village, pour aller à Sistra, pour aller travailler avec d'autres acteurs et ainsi confronter nos expériences du temps et des territoires. Et j'ai trouvé ça profondément engageant. Je dois dire aussi, pour ne pas conforter le tableau pessimiste, mais dans lequel je me retrouverai aussi, de ce que tu as dit de l'université, que c'est toujours pour moi un extraordinaire encouragement de travailler et d'écouter les doctorants, comme j'ai fait la fois dernière, ou l'ensemble des étudiants que nous avons eu le plaisir de croiser. Il faut que tout le monde soit persuadé que s'il y a un avenir dans ce pays, il est là. Que je dirais que le niveau, justement, des sciences économiques, des sciences sociales, est incomparablement meilleur que lorsque je faisais mes études. Que le niveau monte, quoi, disons. Voilà. Il faut le savoir. Il faut savoir que la ressource d'énergie et d'intelligence, elle est aujourd'hui dans cette jeunesse bien malmenée et bien malmenée justement par les institutions. Je suis pourtant dans une des institutions les plus protégées de France, le Collège de France. Je peux vous assurer que nous avons, y compris dans cette institution, qui, effectivement, vue de France, peut paraître confortable, mais vue d'Europe, n'est absolument pas, n'est pas assez attractive pour faire revenir ou simplement retenir les meilleurs chercheurs, par exemple, en chimie, en médecine ou en physique. En physique, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas, en chimie, c'est absolument criant. Donc, il faut savoir qu'à force d'avoir conforté une politique qui est une politique de désinvestissement dans la recherche publique, la France est toujours capable de produire, par exemple, les meilleurs chimistes, mais n'est plus capable de les retenir. Par exemple. Mais j'en parle tout à fait librement. Aujourd'hui, c'est d'une certaine manière mon quotidien. Voilà. Et je suis très surpris. Je pensais effectivement qu'on n'était pas compétitif, évidemment, par rapport à un poste prestigieux au MIT, je ne sais pas, aux États-Unis, en Suisse, etc. Mais partout ailleurs. Également en Allemagne, bien sûr, en Suède, ça va sans dire. Enfin, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la confiance dans les institutions, oui, sans doute, mais au fond, doit-on lui accorder confiance dans les institutions et est-ce que ça suffit à assurer notre avenir ? Je ferais volontiers mien le distinguo de Patrick Ménigier sur ce qu'on peut attendre d'un pouvoir. Le pouvoir nous réclame la confiance. Les dirigeants ne cessent, qu'ils soient économiques ou politiques, ne cessent d'attendre de nous la confiance. Au fond, nous n'avons aucun intérêt et aucune raison valable de leur accorder. Parce que le rapport politique ordinaire, il n'est pas de confiance. Il est d'un usage modéré et raisonné de la méfiance. Parce qu'au fond, il y a trois états. Il y a la confiance, il y a la méfiance et il y a la défiance. Dès lors qu'un état, mais c'est vrai aussi d'une institution économique, suscite la défiance, alors c'est terminé. Alors, effectivement, il y a une sorte de désenchantement. Alors, les Grecs ne croient plus à leur mythe. Alors, au fond, nous sommes dans une perte irréparable, crise de légitimité économique, crise de légitimité politique, crise des inégalités. Dès lors que la défiance s'installe, on peut dire qu'il y a l'irrémédiable. La méfiance, c'est une série de petits arrangements avec l'avenir. C'est une myriade comme un bruit de fond de « pour l'instant, ça va encore ». Cette fois-ci, ça va. Cette fois-ci, on fait un bout de chemin ensemble. Et c'est comme cela qu'on construit une relation politique. Donc, là, l'avenir. Si on la confiance en l'avenir, alors je crois qu'on peut s'accorder sur l'idée que c'est vers de grandes désillusions l'on s'achemine, parce qu'au fond, il n'y a que les esprits religieux qui ont confiance en l'avenir, et il me semble que l'histoire est l'art de profaner le temps, c'est-à-dire de tranquillement contester ce qu'il peut y avoir de providentiel dans l'état sur la flèche du temps et de dire qu'il n'y a pas plus de principes indiscutés et immuables, Dieu jadis, le prolétariat, le monde, tous les principes indiscutés d'une histoire universelle qui ferait que l'histoire avancerait d'elle-même poussé par un principe vers un horizon inexorable. Si on croit ça, alors effectivement, on peut avoir confiance en l'avenir. Mais pour ma part, écrire l'histoire, c'est, je crois que ça consiste à désorganiser les continuités. Et donc, c'est une attitude qui est profondément irreligieuse au sens où elle ne relie plus. Bon. Il y a une manière très simple et très flatteuse et très facile, au fond, de sortir de cette inquiétude, c'est la défiance. C'est effectivement dire, ben, oui, puisque je ne suis pas sûr de l'avenir, je suis au moins certain de sa perte. Et il faut dire combien le déclinisme est une facilité, et une facilité qui, d'une certaine manière, à ceux qui veulent bien s'y contraindre et s'y abandonner, eh bien, assure une position à la fois virile, héroïque et tout à fait satisfaisante sur le plan personnel parce qu'elle déresponsabilise. La défiance, comme la confiance, est une manière au fond d'orienter le temps. Donc moi, je pense qu'on doit être méfiant vis-à-vis de l'avenir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un avenir électoral immédiat. Est-ce qu'on doit être confiant ? Est-ce qu'on doit penser que c'est fait et que donc, de toute façon, c'est déjà écrit ? Évidemment, la seule solution socialement efficace, c'est de se méfier un peu. Et donc ensuite, après, d'en tirer les conséquences nécessaires. Lesquelles ? Bah, d'abord, le fait... Et j'en terminerai par là, parce que je voudrais qu'on puisse discuter. Que la seule chose qui soit véritablement à notre portée, c'est de rappeler quelque chose de très simple, qui est que, au fond, le projet social de bien-être, qui est un projet d'égalité, de démocratie, il repose sur... une seule certitude, qui est que, avec un accès au savoir à tous, on produit la capacité pour chacun de réfléchir aux contraintes qui pèsent sur nos vies et d'agir en conséquence, de manière informée. Il y avait un rapport qui était un rapport, je dirais, un lien de solidarité et de solidarité active entre la pensée progressiste et les sciences sociales. Il y a une affinité qui est une affinité profonde entre la sociologie, en tant qu'elle construit une description scientifique de la société, et comme viennent de le rappeler Bruno Carsenti et Cyril Lemieux, le socialisme de Marcel Mauss, entend qu'il assure à la société une voie de sortie de l'étau qui risque de lui être fatale entre le libéralisme et le nationalisme xénophobe. Puisque c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, comment se fait-il que le libéralisme, qui est d'une certaine manière une évolution profonde, puissante, de très longue durée, que Karl Polanyi met en rapport avec le désencastrement de l'économie, c'est-à-dire qui se libère, qui s'affranchit progressivement de toute régulation sociale, et qui inévitablement produit une société qui, évidemment, exacerbe les inégalités. Comment se fait-il que cette société-là ne soit pas corrigée, mais contrarié par le nationalisme xénophobe. Si nous parlons de l'Europe, on en est là. C'est-à-dire qu'une Europe de plus en plus libérale produit un triomphe qui est pour demain de tous les nationalismes xénophobes. Bon. Carsanti est le mieux dans ce livre récent. Aborde de front cette question. Et c'est la question de notre avenir. Et une des manières d'y répondre, c'est de revenir justement aux origines des sciences sociales. Marcel Mauss, j'y faisais allusion, écrit au lendemain de la guerre un livre inachevé, probablement en 1920, mais qu'on ne connaît que par ses brouillons et qui a été en 2013 publié sous le titre « La Nation ». Il cherche à ce moment-là à définir, autrement que de manière, je dirais, civique, à la manière d'Ernest Renan, une description sociologique de la nation. La nation, peut-être, et là je suis en accord avec vous, c'est notre cadre d'expérience politique et sensible. Mais pour le décrire, le nationalisme n'est pas la meilleure manière de le faire. Autrement dit, le nationalisme échoue à décrire la nation. C'est les sciences sociales qui en produisent la description la plus exacte. Et j'ai bien entendu effectivement ce que vous avez dit l'un et l'autre. D'une certaine manière, alors je veux bien dire que les historiens travaillent à la globalisation, mais pour comprendre le fait national, pas pour l'ignorer. On ne peut plus continuer à l'ignorer, parce que sinon, effectivement, on en a les formes les plus empoisonnées. Alors, il y a d'autres territoires que la nation, mais il faudra affronter celui-là. Et il faudra l'affronter avec les armes des sciences sociales, qui contribuent, je crois, à en définir une vision non mortifère. Pourquoi ? Parce que, bien sûr qu'on peut rêver à un archipel métropolitain qui, effectivement, à distance, se faisant confiance à distance, la confiance à distance est un élément très important, effectivement, que les historiens, que les économistes, que les sociologues travaillent. Je vous donne un exemple qui est tout à fait fascinant. C'est l'exemple ancien du commerce interculturel que Francesca Trivelato a étudié dans « Corail contre diamant ». On en parlait justement récemment avec des entrepreneurs. Au XVIIe siècle, des compagnies juives, notamment de Livourne, organisent un commerce de très longue distance et interconfessionnel entre le corail méditerranéen et les diamants de Goa. Comment ? Il y a un moment qui est quand même un peu un moment angoissant. Là, il faut avoir confiance en l'avenir. Vous envoyez votre corail, on est au XVIIe siècle, hein, des gens que vous n'avez jamais vus, dont vous ne savez pas la langue, qui ont une religion qui vous inspire, qui sont musulmans, au mieux de l'indifférence ou du mépris, le plus souvent de l'hostilité. Bon. Et vous leur envoyez du corail et vous attendez, vous espérez que reviennent des diamants, 2 mois plus tard. Il faut quand même se faire confiance. Qu'est-ce qui garantit cette confiance ? Ce n'est pas la communauté, puisqu'on n'est pas de la même. C'est l'institution sociale. Il y a effectivement un droit, il y a des lettres de change, il y a des comptoirs qui s'organisent, et d'une certaine manière, ça crée de la confiance à distance. Alors, est-ce que les archipels métropolitains vont créer une confiance à distance qui va d'une certaine manière permettre de desserrer l'étau des nationalismes xénophobes? On peut le penser. Mais moi, je pense qu'il faudra aussi affronter, sans louvoyer, la question nationale. L'histoire mondiale de la France, dont il est une question et qui, voilà, a suscité à la fois un engouement public et critique, mais aussi des critiques de plus en plus agressives, qui définissent aussi le moment où nous sommes et le danger qui nous guette. Bon. Pose la question du fait national. Et pose au fond la question, et sur laquelle je voudrais m'arrêter en guise de provocation, mais de provocation au débat. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer de se laisser enfermer dans un face-à-face entre le cosmopolitisme et l'enracinement. On n'a pas à choisir entre le cosmopolitisme et l'enracinement. On doit effectivement, et là, je dis et redis combien la position des lois Laurent me semble importante, investir la question de la justice territoriale, à ceci près que, effectivement, je pense que le territoire, c'est, comme vous le définissez dans les premières pages de votre livre, effectivement un espace politisé, un espace gouverné, mais je pense que c'est aussi un espace sédimenté par le temps historique. Voilà. Et que le gouverner, c'est aussi gouverner sa mémoire, son passé, le récit qu'on en peut faire. Mais à ce moment-là, il faudra aussi se poser la question sur de ceux qui n'ont pas confiance en l'avenir parce que le libéralisme ne leur offre aucune possibilité de penser leur bien-être autrement qu'en les laissant dans la trappe du nationalisme xénophobe. Alors, nous sommes universitaires, industriels, des cosmopolites heureux. Mais il faudra bien, à un moment, s'intéresser à ceux qui sont des enracinés malheureux et réclamer pitié pour les autochtones, pour ceux qui sont quelque part et ne peuvent pas aller ailleurs. Et à cela, pour l'instant, on n'offre aucune possibilité politique et on n'offre aucune possibilité réflexive. Et c'est cela qui est justement la méfiance que l'on doit opposer à l'avenir. La seule manière, au fond, de la gouverner, cette méfiance, c'est de rappeler que, encore une fois, face à cette crise que vous appelez la crise des inégalités et la crise écologique, et je suis d'accord avec vous, dans les deux cas, il y va du rapport que nous avons avec le fait, avec la vérité, avec la connaissance, se souvenir que le projet, qui était le projet initial des sciences sociales, d'émancipation, les sciences sociales, c'est une philosophie de l'émancipation, par la connaissance, par l'accès de tous au savoir, pour que chacun puisse s'affranchir de ce qui le gouverne et le domine. Et que, dès lors qu'on perd de vue cette cette visée sociale, alors oui, nous tombons dans un monde qui risque d'être dangereux. Mais voilà, nous sommes ensemble, et il y a des livres, il y a des libraires, il y a des acteurs sociaux, il y a différentes disciplines, et au fond, désespérer n'est pas seulement moralement inacceptable, mais intellectuellement insuffisant. Donc, au fond, on n'a pas le choix. Et il faut donc faire avec ce qu'on a, là où on est. Et je ne peux pas dire autrement que la plus belle chose que j'ai lue dans le livre des lois Laurent et qui m'encourage à faire le mien, puisque apparemment j'ai compris que c'était une invitation polie, mais tout de même appuyée à le faire, c'est cette synonymie entre ici et demain qui doit, à mon avis, nous rassembler. Je vous remercie.
Bien, merci. Peut-être que Éloi Laurent veut réagir à ce qui vient d'être dit.
Bien, ben merci beaucoup pour ces commentaires qui me font très plaisir et ces éloges. Ce n'est pas rien de recevoir des éloges de Patrick Boucheron, donc je suis content d'être venu. J'étais aussi content pour d'autres raisons, mais enfin, c'est là quand même. Donc merci beaucoup. Je vais répondre sur trois points. Le premier point qui est la question du rapport entre les inégalités et le temps. Le deuxième qui est le rôle de la défiance politique dans le libéralisme. Et le troisième qui est la question du fait national. Sur le point qui est soulevé par Boltanski et Sker sur l'idée que le passé, au fond, devient une marchandise très convoitée. Je pense qu'on peut lire ça comme ça, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie, presque de la sociologie des objets, en quelque sorte, de montrer ça, de montrer de quelle manière le passé est marchandisé et valorisé. D'un certain point de vue, il y a quelque chose d'un peu tautologique dans le fait de dire que l'enrichissement suppose l'histoire, puisque l'enrichissement supposant l'accumulation, il y a forcément, je veux dire, il est évident que l'enrichissement suppose la valeur créée. Mais je crois qu'il y a une autre façon de lire ça, qui est celle sur laquelle vous avez insisté, qui est de dire que la concentration de la richesse en certains lieux, au fond, a une forme de ce qu'on appelle en physique d'hystérèse. C'est-à-dire, l'hystérèse, c'est un effet qui se poursuit quand sa cause a disparu. Et quand on regarde une carte du monde, quand on regarde une carte de l'Europe, on est frappé de voir, même une carte des États-Unis, on est frappé de voir la permanence de l'espace de la révolution industrielle, par exemple, qui s'inscrit dans la richesse d'aujourd'hui, parce qu'on a des effets d'accumulation qui, en fait, sont et d'agglomération, ce qu'on appelle en économie l'agglomération, et qui sont, en fait, très difficiles surmontable. Mais je crois qu'il y a encore une autre dimension dans cette idée du rapport entre le temps et les inégalités, c'est qu'au fond, aujourd'hui, le temps est sans doute, et le fait d'avoir le temps est sans doute une des marques les plus distinctives de la richesse. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps, et le fait de ne plus avoir le temps, c'est le signe de la faiblesse politique. Et ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont le temps. De même que ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont des stylos-plumes, qui signent de manière manuscrite. C'est une marque de la puissance quand tout le monde est passé à l'ordinateur. Parce que c'est vous, quand vous signez, que ça veut dire que, précisément, il reste ce rapport à l'objet. Et cette idée d'avoir le temps, c'est dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps par les technologies numériques, c'est en fait une marque de puissance. Et donc, il y a un rapport tout à fait entre la crise des inégalités et ce rapport au temps, qui est très marqué socialement, de plus en plus marqué socialement. La deuxième question qui est le rôle de la défiance dans le libéralisme politique, ça j'en suis convaincu. On appelle d'ailleurs dans les systèmes parlementaires ça des motions de défiance constructive. Donc à l'origine même, si on reprend Locke, etc., la défiance c'est la construction du rapport. Donc en effet, ce n'est pas naturel d'être confiant. Ce qui est naturel, c'est d'être méfiant, voire défiant, et ça construit une forme de confiance qui est extrêmement fragile et qui prend beaucoup de temps à être accumulée et quelques secondes à être détruite, qu'ont fait les affaires Cahuzac, etc. Et peut-être que, moi je me demande souvent, mais quel a été le sujet de cette élection ? C'est très compliqué de comprendre de quoi on a parlé dans cette élection présidentielle. Et peut-être que le sujet de cette élection, c'était la confiance. Peut-être que c'est ça, en fait, dont on a parlé profondément dans cette élection présidentielle et qu'on ne l'a pas encore mesuré à quel point, justement. Voilà, donc là, le rôle de la défiance, oui, c'est vraiment la position naturelle, je dirais, par rapport à... Alors là, pour reprendre les États-Unis, mais de manière positive, c'est vraiment la déclaration d'indépendance. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait d'affirmer une communauté politique par ce qui est une déclaration de défiance. C'est une déclaration d'indépendance, mais en fait, fondamentalement, c'est une déclaration de défiance. Et enfin, le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, sur le fait national et le caractère finalement incontournable du fait national et le fait qu'il faut s'en soucier et qu'on ne peut pas y échapper par le global ou par le local, il faut l'affronter. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je reprendrai le baromètre qui est paru hier. Il y a beaucoup de choses contestables et notamment la manière dont les données sont interprétées. Mais il y a une donnée très fondamentale qui apparaît quand on regarde les données qui ont été collectées. Et c'est le fait que les Français ne sont pas uniformément défiants ou uniformément pessimistes. Et ils ne sont pas non plus uniformément malheureux. Vous savez qu'il y a une légende en France qui est qu'on est pessimiste, malheureux et défiant. Et c'est pour ça, fondamentalement, qu'on a tous ces problèmes. Bon. Et donc, on parle de société de défiance, du malheur français, etc. Les nuances de la défiance, du malheur et du pessimisme sont absolument fascinantes. Par exemple, on voit que les Français sont heureux dans le privé et malheureux dans le public. On dit qu'il y a un bonheur privé et un malheur public en France. Et ça désigne quoi ? Ça désigne que le fait que les gens qui se disent malheureux sont notamment malheureux de la France. Pas de leur vie, mais de la France. Et ça, c'est une donnée très intéressante. Et dans ce baromètre, on nous dit « Ah ben voilà, c'est très simple, il y a un rapport entre le malheur et le vote politique. » Alors, je vous donne un scoop. Les gens malheureux votent Le Pen, les gens heureux votent Macron. C'est ce que j'ai vu hier au journal télévisé dans le résumé du baromètre en question. Tout ça, c'est pareil d'un point, parce que les gens qui votent Le Pen, c'est 5,4 sur une échelle 0 à 10, et ceux qui votent Macron, c'est 6,4. Donc déjà, on voit tout de suite qu'il y a un problème, et tous les candidats sont situés dans un point de différence. Donc déjà, on comprend tout de suite qu'il y a un petit problème dans la construction. Mais c'est l'argument qui était repris dans la presse, c'est de dire Marine Le Pen n'est pas la représentante des classes populaires, elle est la représentante des gens malheureux. Vous voyez, Le Pen, ce n'est pas la candidate des pauvres, c'est la candidate des frustrés. C'est ça qu'on dit, quand on dit ça. C'est un point qui est tout à fait contestable et qui est très problématique de dire ça. Mais derrière, il y a un argument qui est donné par les données même de l'enquête qui est intéressante. C'est que s'il y a malheur, c'est un malheur public. C'est un malheur au sujet de la France et donc au sujet du fait national. Et ça, c'est très intéressant. De même que les gens ne sont pas pessimistes sur leur avenir. Ils sont généralement pas si pessimistes que ça sur leur avenir. Ils sont pessimistes sur l'avenir du pays. Voilà. Et quant à la défiance, il y a toutes sortes de nuances. Ils ont une confiance énorme dans les hôpitaux. 84% des Français ont confiance dans leurs hôpitaux. 14% dans les partis politiques. Alors, si les partis politiques se mettent en tête de vouloir détruire les hôpitaux, il ne faut pas espérer que la confiance dans les partis politiques augmente. Voilà. Donc, l'idée de la défiance, du malheur, du pessimisme, il y a plein de nuances passionnantes, mais notamment, l'une d'elles, c'est de faire apparaître ce malheur public. Et ça, c'est vraiment une question intéressante, en effet. L'idée d'être malheureux de la France. Et ça, c'est une question qu'il ne faut pas éviter. Je suis d'accord.
Je vous remercie pour votre attention et je remercie le professeur.